Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Vous êtes le ministre délégué chargé des comptes publics, autrement dit ministre du budget. On va évidemment parler sous avec vous, notamment de ce quoi qu'il en coûte qui était terminé. Et puis comme le Covid revient, je vais vous demander si le quoi qu'il en coûte pourrait revenir aussi. Mais d'abord, pas de panique, on va tenir l'hiver. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron. Moi j'ai hyper envie de me dire pas de panique, on va passer l'hiver. Mais en vrai, est-ce que vous êtes rassuré?
Si on est capable tous de faire les efforts nécessaires, que ce soit les entreprises, l'État, les collectivités locales et chacune et chacun d'entre nous, il n'y a pas de raison qu'on ne traverse pas l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, il faut se préparer à tous les scénarios, c'est ce qu'on a fait, ça a été abondamment commenté, mes collègues du gouvernement se sont exprimés sur le sujet. Et oui, il y a une responsabilité collective, vous savez qu'on a donné des outils aux entreprises, que par ailleurs, nous, l'État, on a mis en place aussi un plan de sobriété pour agir et limiter, réduire au maximum notre consommation. On travaille aussi évidemment avec EDF pour que nos réacteurs nucléaires puissent repartir le plus rapidement possible, ceux qui sont encore en
Il y a encore 20 réacteurs sur les 56 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt.
Je crois que c'est 12 de moins qu'en août dernier, donc on voit bien qu'il y a eu progrès.
Mais c'est aussi des réacteurs en moins par rapport à ce que vous aviez prévu.
Absolument.
On est en retard sur la feuille de route.
C'est pour ça que la feuille de route du nouveau président directeur général d'EDF, Luc Rémont, c'est évidemment de faire en sorte et de tout faire pour qu'on puisse redémarrer aussi rapidement que possible ces réacteurs.
Mais ce qui me frappe quand même, Gabriel Attal, c'est que quand je vous demande est-ce qu'on va passer l'hiver, oui, pas de panique, vous dites tout de suite, oui, si on est capable tous de faire des efforts. Je trouve que c'est presque une forme de chantage, c'est-à-dire qu'il y a un côté, faites des efforts, sinon on vous coûte le courant, quoi.
Non, c'est pas ça, Pauline de Malherbe, c'est qu'on a une réalité qui est que l'hiver, il y a une demande très forte d'électricité, que plus la température est froide, plus il y a une demande qui est forte, qu'il y a des tensions qui sont pour partie liées au contexte géopolitique et à la guerre en Ukraine, pour d'autres liés à des réacteurs qui sont en maintenance, et que ça implique effectivement qu'on fasse tous une part d'effort.
Il y aura donc, après tous anti-Covid, EcoWatt, c'est la nouvelle application qu'il faut télécharger pour avoir la météo de l'énergie, c'est-à-dire savoir si on va manquer ou pas, si on est en tension ou pas. Vous l'avez téléchargé, vous ?
Je l'ai téléchargé, j'appelle ceux qui nous regardent à le faire. Je crois qu'hier soir, on était à 700 000 téléchargements, donc il faut que ça continue. Effectivement, ça permet de savoir sur les deux ou trois prochains jours comment on prévoit la consommation d'électricité et la disponibilité d'électricité. Ça donne aussi des idées de gestes pour réduire sa consommation. C'est important de la télécharger.
Il y a un embargo sur le pétrole russe qui entre en vigueur officiellement du point de vue de l'Union européenne. Tous ensemble se sont mis d'accord. Alors, oui, on ne va plus acheter du pétrole russe, mais on continue à acheter de l'uranium russe. C'est ce qu'on a découvert, c'est Greenpeace qui l'a révélé. La France qui a reçu ce mardi une livraison d'uranium en provenance de la Russie. Ça ne nous dérange pas. Par contre,
on fait tout pour diversifier nos approvisionnements sur tous les sujets énergétiques. Et c'est vrai qu'il y a encore en Europe certaines importations énergétiques russes. Ça a été le cas sur le gaz, c'est encore pour un temps court le cas sur le pétrole, c'est peut-être le cas sur d'autres. Mais ce qu'on cherche justement, c'est à diversifier nos sources d'énergie. Regardez sur le gaz. La part de gaz russe dans les importations européennes a sensiblement diminué ces derniers mois, précisément parce que on cherche des alternatives. Ça met un peu de temps parfois, mais c'est ça la direction qu'on prend.
Mais ça va dans le bon sens. Pour vous, c'est clair?
Oui, bien sûr. L'objectif, c'est de dépendre moins et de ne plus dépendre de la Russie pour nous approvisionner en matière d'énergie. Et c'est aussi pour ça, Apolline de Malherbe, que chez nous, on relance massivement le nucléaire, qu'on veut développer massivement les énergies renouvelables. Il y a un texte qui démarre aujourd'hui
à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables.
On veut moins dépendre des autres et plus dépendre de nous-mêmes pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour travailler, pour se défendre, pour s'informer. Le projet du président de la République, c'est un projet de souveraineté, d'indépendance en France et en Europe. Ça veut dire qu'on investit pour dépendre moins des autres.
Mais justement, il y a un point que je trouve quand même très paradoxal, c'est que vous qui tenez les cordons de la bourse, vous avez mis en place des boucliers tarifaires, donc ça veut dire que c'est de l'argent de l'État qui va compenser pour tenter de faire baisser la facture des Français, même si vous allez un tout petit peu alléger ce bouclier et on va payer un peu plus concrètement à partir de janvier. Mais c'est notamment dû au fait que les prix de l'électricité en France sont un indexée, comme on dit, sur les prix du gaz. Et ça, c'est un phénomène européen. Et ça fait 6 mois que vous demandez à l'Europe de découpler le prix de l'électricité et du gaz. Pour que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire qu'on paye plus cher l'électricité en France qu'on ne la produit, parce qu'il y a ce phénomène où notre prix de l'électricité, c'est un mécanisme européen, est indexé sur les prix du gaz. Le 30 août dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a dit « il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité et du prix du gaz ». L'Espagnol et le Portugal ont été autorisés à le faire. Il y a eu une réunion des ministres de l'Énergie dès le 9 septembre, il y en a eu une autre le 30 septembre, il y en a eu une autre le 21 octobre. Et on n'a toujours pas découplé les prix de l'électricité et du gaz.
Celle qui est importante, c'est celle du 21 octobre, parce qu'il y a une forme d'accord de principe pour y travailler. Mais c'est vrai, Pauline de Malherbe, qu'au niveau européen, vous le savez, on doit prendre des décisions à 27. Et que parfois, sur certains sujets, ça prend plus de temps que sur d'autres, parce que quand vous avez 1, 2, 3 pays qui bloquent, eh ben vous ne pouvez pas avancer. C'est vrai que les Espagnols et les Portugais ont eu une forme de dérogation, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation que nous, ils ne sont pas interconnectés comme on l'est, c'est une péninsule ibérique, mais ça fait partie des sujets sur lesquels on continue à travailler. Dans l'attente, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on fait tout pour faire baisser le prix du gaz, puisque vous avez raison, une partie du prix de l'électricité est calculée sur le prix du gaz. Donc plus vous faites baisser le prix du gaz au niveau européen,
c'est absurde. Enfin, je veux dire, quand on regarde, moi j'ai refait
le constat
tout
de Malherbe sur le fait
tout
que
se dérouler. Je me dis quand même, en août, on a notre ministre de l'économie qui dit que c'est une urgence absolue, et on est donc 3-4 mois après et on n'a toujours rien.
Le constat sur le fait qu'il faut réformer le marché européen de l'énergie, on l'a fait et c'est ce qu'on pousse. Deux, oui, sur ce sujet-là, ça ne va pas assez vite à notre sens. Mais
est-ce qu'à un moment,
que...
il ne faut pas aller vers la désobéissance ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas à un moment dire attendez, on ne va pas attendre l'été, quoi.
Vous avez
le problème,
certains...
il est pendant l'hiver, on est déjà en décembre.
Vous avez certains qui disent, à ce moment-là, sortons du marché européen de l'énergie, comme ça, on sort des règles qui, effectivement, parfois peuvent paraître absurdes. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus importer d'énergie de nos voisins européens ? On a bien vu tout à l'heure dans la discussion qu'on a qu'on n'en produit pas suffisamment aujourd'hui. Et donc ça voudrait dire qu'on se retrouverait avec un blackout si on faisait ça. Donc non, on doit rester dans le marché européen de l'énergie. Il faut le
faire. Quitte à payer plus cher notre électricité.
Il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer. C'est ce à quoi on travaille. On a vu sur d'autres sujets au niveau européen que ça semblait au départ impossible et qu'on avait réussi à avancer rapidement sur la question du Covid et des vaccins, sur la question du plan de relance. On a obtenu un accord au niveau européen.
Et là, on est en décembre, pour s'endetter. En janvier, en février.
Je suis totalement d'accord avec vous, Apolline de Malherbe. Et encore une fois, la réunion du Conseil des ministres européens de l'énergie qui s'est tenue le 21 octobre, pour moi, constitue une forme d'avancée en la matière. On va évidemment continuer à se battre sur le sujet.
La France qui bosse, c'est votre nouvelle priorité, Gabriel Attal. On est passé d'ailleurs du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, aussi parce que vous voulez que les aides soient mieux ciblées, notamment pour ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Je voudrais qu'on revienne sur la question du dispositif gros rouleur, parce que sur les prix du carburant, la ristourne, elle a déjà été allégée, elle va disparaître au 1er janvier au profit d'un dispositif qu'on appelle gros rouleur. Ça va marcher comment ?
D'abord, vous avez raison, on doit soutenir davantage les Français qui travaillent. Et notamment quand on parle de carburant, les Français qui travaillent et qui utilisent leur voiture pour aller travailler. On doit cibler davantage nos aides. La ristourne carburant, ça a coûté 8 milliards d'euros sur l'année 2022. C'est l'équivalent du budget du ministère de la Justice sur une année. On ne peut pas se payer une ristourne à vie, et donc on doit cibler davantage nos dispositifs. Le choix qu'on fait, c'est de les cibler sur ceux qui travaillent. Et donc le premier critère pour bénéficier de l'indemnité gros rouleur, moi je l'appelle gros bosseur, parce que ce sera de travailler. Vous devrez déclarer des revenus d'activité pour bénéficier de cette indemnité carburant.
Ça veut dire que vous pouvez nous affirmer ce matin que si je prends ma voiture tous les jours pour aller travailler, je bénéficierai du dispositif gros rouleur.
Il y aura ensuite des conditions de revenus, Pauline de Malherbe, et notamment notre objectif, c'est de toucher les travailleurs modestes, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui ont les moins gros salaires, et la classe moyenne.
Donc il va y avoir à nouveau un effet de seuil, et il va y avoir à nouveau ce sentiment de frustration chez ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC, mais
c'est toujours
qui
le risque quand vous avez des seuils de quand vous avez des seuils de revenus. En l'occurrence, on cherche, c'est les paramètres qu'on est en train de définir, à couvrir le plus possible la classe moyenne, notamment qui travaille.
Et ce sera ce quoi, qui est certain. Le dispositif, ce sera quoi, le plafond.
Je pense que dans les prochains jours, en tout cas d'ici les fêtes, on aura l'occasion
vous
d'avancer.
Vous, Gabriel Attal ?
Moi, ce que je vous dis, c'est que je souhaite, un, que les Français qui travaillent en bénéficient, et deux, que les classes moyennes en bénéficient.
Donc
et
les classes moyennes, ça veut dire quand même assez nettement au-dessus du SMIC. Vous n'allez pas bloquer
le
SMIC.
Oui, c'est au-dessus du SMIC, les classes moyennes. Aujourd'hui, je crois que le revenu médian est autour de 2000 euros. Donc il faut qu'on arrive à aller aussi loin possible pour accompagner les classes moyennes.
Le seuil, ça pourrait être 2000 euros.
Je suis pas là en train de vous faire une annonce. Encore une fois, il y a des arbitrages qui seront rendus par la Première Ministre et le Président de la République. Mais moi, mon souhait, c'est qu'on accompagne davantage les classes moyennes qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui, parfois, je le dis, ont le sentiment de travailler pour les autres, de travailler pour des gens qui ne travaillent pas, de produire de la richesse en travaillant, ce qui permet de protéger les Français face à l'augmentation des prix, par exemple, mais d'être moins accompagné que d'autres.
Vous avez l'impression qu'il y a deux France ?
Je dirais pas ça comme ça. Parfois, on peut se dire qu'il y a deux rapports au travail. Il y a des Français qui se lèvent tous les matins.
C'est quoi ? C'est la France qui bosse et la France des allocs ? Enfin, je veux dire, pour caricaturer,
non,
évidemment.
Non, justement, moi, je suis pas dans la caricature, je suis pas dans le mépris, la stigmatisation. Ce que je sais, c'est qu'il y a des millions de Français qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, qui prennent leur voiture, qui voient l'augmentation des prix, qui voient qu'il y a des aides qui sont mises en place. Parfois, elles ne les concernent pas et qui ont parfois le sentiment d'être un peu oubliés et qui se disent parfois finalement ça va finir par coûter plus cher d'aller bosser que de rester chez soi.
On voit que vous les comprenez.
Évidemment, je les entends. Et c'est pour ça qu'on met en place des dispositifs dans le budget pour les accompagner spécifiquement en neutralisant l'effet de l'inflation sur l'impôt sur le revenu, ce qui va permettre à ceux qui travaillent de ne pas voir leur impôt sur le revenu augmenter. En augmentant la valeur ticket restaurant.
Ça, pardon Gabriel Attal, mais c'est marrant parce que régulièrement vous nous dites ah bah oui, j'ai fait un truc pour le revenu.
C'est pas un truc, c'est 6 milliards d'euros.
Mais c'est automatique.
Non, c'est pas automatique.
C'est automatique.
Chaque année, vous décidez, vous votez si oui ou non.
Il y a eu une année où ça n'a pas été fait.
Il y a eu plusieurs années. Et quand vous avez un tel niveau d'inflation, légitimement, vous posez la question de savoir si vous le faites. Ça coûte 6 milliards d'euros. Si on ne prenait pas cette mesure.
Enfin, ça coûte 6 milliards d'euros. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où il y a l'inflation, en effet, si vous n'indexez pas, c'est pas à vous qui obtenez 6 milliards d'euros, c'est aux Français.
Exactement.
Puisqu'ils vous paieront 6 milliards d'euros.
Exactement.
Donc,
si on ne prenait pas cette mesure, les Français paieraient 6 milliards d'euros d'impôts de plus. On a supprimé la contribution à l'audiovisuel public, la redevance télé. Ça, c'est les classes moyennes. 38 euros qu'elles auraient dû payer. On prend une mesure importante par ailleurs dans le budget pour 2023.
Oui, mais on a l'impression à chaque fois que c'est des vases communicants. Il y a eu l'histoire de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.
Je termine avec la dernière mesure. On augmente le plafond pour le crédit d'impôt sur la garde d'enfants. Vous avez beaucoup de Français de classe moyenne qui travaillent, qui doivent faire garder leurs enfants. Ça coûte de l'argent, une crèche, une assistante maternelle. Aujourd'hui, le crédit d'impôt, il est plafonné à 2300 euros de dépenses pour la garde d'enfants. On l'augmente de 50%, ça veut dire que ça va être 3500 euros le plafond en 2023. Ça, c'est une mesure pour les classes moyennes qui travaillent. Donc vous voyez, on cherche systématiquement des mesures qui permettent d'accompagner nos concitoyens qui bossent, qui se lèvent tôt le matin, qui créent de la richesse et qui nous permettent ensuite, grâce à la richesse qui est créée, de prendre des mesures pour protéger les Français.
Alors certains prennent leur voiture, d'autres prennent les transports pour se déplacer. La RATP, il manque 450 millions d'euros à Valérie Pécresse pour boucler le budget d'Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous allez lui donner ces sous ?
Il y a effectivement un besoin de financement pour Île-de-France Mobilité. Moi, je rappelle que les transports, c'est une compétence régionale, pas une compétence de l'État. Moi, ce que je dis à Valérie Pécresse, c'est que les Franciliens ne sont pas un tiroir-caisse sur lequel on peut pomper en augmentant indéfiniment le pass Navigo. Et l'État non plus n'est pas un tiroir-caisse. Et parfois, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe. Quand on a passé toute une campagne présidentielle à expliquer que l'État dépense trop, que l'État crame la caisse, et systématiquement aller demander à l'État d'être garant quand on a des difficultés, il y a une forme de paradoxe. Donc moi, ce que je dis...
Le problème, c'est que soit c'est vous qui payez, soit c'est les usagers. C'est-à-dire que soit vous mettez les 450 millions, soit elle va augmenter le prix du pass Navigo.
Ce que je dis, c'est qu'on va continuer à travailler avec elle. C'est un dossier qui est suivi à très haut niveau par la Première ministre, par les ministres concernés. On va continuer avec elle pour trouver des solutions, pour l'aider. Mais il faut qu'elle nous aide à l'aider en regardant les autres possibilités qui existent. Pour le financement.
La SNCF, donc là il y avait la RATP, il y a la SNCF qui crée un mouvement hors de contrôle qui pourrait gâcher les fêtes de Noël. C'est aussi sur des questions de salaire, et les salaires, c'est vous.
Il y a eu des revalorisations salariales à la SNCF, il y a toujours des discussions qui ont lieu. Moi, simplement, ce que je dis, c'est que dans le contexte qu'on a connu dans notre pays depuis maintenant 2 ou 3 ans, vu les inquiétudes qui sont celles des Français, je pense que les Français, ils ont besoin de se retrouver en famille pour passer les fêtes. Et donc, j'espère sincèrement qu'il y aura une responsabilité de la part des organisations syndicales pour permettre aux Français de se retrouver en famille pour les fêtes.
On a un peu l'impression quand même que les transports, ça coûte plus cher et ça marche moins bien, que l'électricité, ça coûte plus cher et ça marche moins bien. C'est compliqué quand même.
Il y a un moment de crise, évidemment. Il y a eu plusieurs crises, d'ailleurs. Et vous avez des opérateurs qui ont des difficultés, notamment parce qu'ils ont été mis à l'arrêt pendant la crise sanitaire. Je pense notamment à Île-de-France Mobilité, au transport francilien. Et pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qu'il a fait l'État ? 2 milliards d'euros d'accompagnement pour les transports en commun en Île-de-France. Donc vous voyez qu'on est au rendez-vous, on cherche à aider les Français le mieux possible. Et on le fait, et ça c'est mon rôle de le dire en tant que ministre du Budget, dans un environnement budgétaire qui est contraint. On ne peut pas tout se permettre. Parce que la réalité, c'est qu'il y a eu une parenthèse qui était celle...
Mais
de
on a
l'emprunt
pu,
gratuit.
Je reprends par exemple cet exemple de la RATP. Vous nous l'avez dit vous-même, vous avez mis 8 milliards d'euros pour les aides au carburant et vous n'allez pas mettre les 450 millions pour la RATP.
Ce que je vous ai dit, c'est qu'on continue à travailler avec Île-de-France Mobilité. Et par ailleurs, c'est des sujets qui sont différents. Encore une fois, les transports, c'est une compétence des régions. Ce n'est pas une compétence de l'État. Il y a eu un moment de crise pendant la crise Covid, la crise sanitaire. L'État était au rendez-vous pour les accompagner. 2 milliards d'euros d'accompagnement.
Et le Covid est de retour. Est-ce que financier. Vous dites, si le Covid est de retour, s'il y a cette crise de l'énergie, est-ce que vous allez rouvrir le quoi qu'il en coûte?
Non, on ne repartira pas dans le quoi qu'il en coûte. Mais par ailleurs, je vais vous dire, sur le Covid, on peut quand même espérer qu'on ne se retrouvera pas dans des situations telles que celles qu'on a connues au plus fort de la crise, quand vous aviez des hôpitaux submergés. D'abord parce que les Français aujourd'hui savent beaucoup mieux comment se protéger vis-à-vis de ce virus. Ensuite, parce qu'on a la chance d'avoir de la vaccination. Évidemment, moi j'appelle les Français qui sont éligibles, qui sont les plus fragiles, à faire leur rappel vaccinal. Mon collègue François Braun était sur votre antenne hier et il a rappelé solennellement que c'était important d'aller se faire vacciner, de faire
son rappel.
Et le masque, on voit bien les situations dans lesquelles il faut le porter, notamment quand vous êtes dans les transports.
Mais pas d'obligation.
Ça fait près de 3 ans qu'on vit avec cette épidémie. Moi, ma conviction, c'est que les Français, ils savent à peu près maintenant quelles sont les situations dans lesquelles il faut porter le masque. On nous a beaucoup dit, à une époque, vous vous souvenez, on mettait des obligations, vous infantilisez les Français, on est assez grand pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre le masque.
Donc les Français sont assez grands pour savoir aujourd'hui, et ils n'étaient pas il y a 2 ans, mais parce qu'ils... Pourquoi ? Parce que
je pense que ça fait 3 ans qu'on vit avec cette épidémie, que les Français, ils savent les moments qui sont les plus à risque. Effectivement, quand on est dans un métro où il y a beaucoup de monde, quand on est dans un train où il y a beaucoup de monde, bah, c'est bien de mettre le max.
Et où il y a d'autant plus de monde qu'effectivement, il y a moins de métro et moins de trains. On y revient. Un mot aussi sur la lutte contre les fraudes, parce que ça aussi, c'est dans votre portefeuille. Vous êtes aussi le ministre des Douanes et vous allez lancer aujourd'hui un grand plan de lutte contre les fraudes au tabac. Ça va marcher comment ?
On fait un constat, c'est que la vente et le trafic de tabac de contrebande explosent dans notre pays. Si je vous donne quelques chiffres, il y a 5 ans, il y avait un peu plus de 200 tonnes de tabac qui étaient saisies en France. L'an dernier, on était à 400. Et cette année, on sera probablement au double, c'est-à-dire à 800 tonnes. On est déjà à 600 tonnes en 10 mois. Parce que la réalité, c'est que un certain nombre de réseaux mafieux se sont reportés sur le trafic de tabac plutôt que sur le trafic de stupéfiants. Il y a une explosion. C'est très mauvais pour notre pays. D'abord, c'est mauvais parce que ça finance de la criminalité. C'est mauvais ensuite, Apolline de Malherbe, parce que c'est une perte fiscale pour l'État, 3 milliards d'euros. Et c'est mauvais parce que ça déstabilise le réseau des buralistes. Et on a besoin de nos buralistes dans notre pays pour la cohésion des territoires, pour le lien social dans les territoires.
Mais est-ce que ça veut dire aussi, Gabriel Attal, que vous considérez désormais qu'il faut lutter contre le trafic de tabac avec la même énergie, la même vigueur que contre le trafic de drogue?
Oui, parce que le trafic de tabac n'a plus rien à envier en termes de méthode et de volume au trafic de stupéfiants. Vous savez ce qui s'est passé cette année? Pour la première fois dans notre histoire, on a démantelé sur le sol français des usines clandestines de tabac. 3 usines clandestines de tabac en région Île-de-France et dans le Nord qui produisaient entre 1 et 2 millions de cigarettes de contrefaçon chaque jour. On les a démantelées. On a parfois des conteneurs qui arrivent avec 10 tonnes de tabac de contrebande.
Et il y aura des sanctions qui seront similaires pour le trafic de tabac que pour le trafic de drogue.
On prend plusieurs mesures. D'abord, on investit massivement dans les moyens de contrôle. On va tripler le nombre de scanners mobiles pour scanner les conteneurs qui arrivent dans nos ports, dans nos aéroports. On met en place des scanners dans les centres de tri postaux parce qu'on a aujourd'hui du trafic qui se fait en petite quantité dans des colis, mais en grand nombre. Donc on va pouvoir scanner tous les colis pour identifier ceux qui contiennent du tabac. Donc renforcement des moyens techniques. Ensuite, effectivement, renforcement des sanctions. Il faut alourdir les sanctions pour ceux qui sont à la tête de réseaux qui organisent de l'importation et de la contrebande de tabac. Par exemple, aujourd'hui, pour ces faits-là, vous avez une peine de prison qui est 1 an de prison. On va la passer à 3 ans de prison et à 10 ans en cas de bande organisée. On veut aussi lutter contre un phénomène qui empoisonne la vie de beaucoup de quartiers dans notre pays, c'est la vente à la sauvette. Vous avez des Français.
On a des quartiers, le quartier de la Duchère à Lyon, qui sont carrément gangrénés par ce trafic.
Absolument. Et vous avez des Français qui sortent du métro dans certains endroits à Paris ou ailleurs et qui sont complètement harcelés par des vendeurs à la sauvette. Ça a un impact aussi sur les commerçants de ces quartiers. Donc, on veut travailler davantage avec la gendarmerie et la police. On l'a testé à Lyon, ça marche très bien. Et faire des opérations coup de poing, des descentes douanières pour aller harceler ces vendeurs à la sauvette. Je veux également que les vendeurs à la sauvette, quand il s'agit d'étrangers, qui sont condamnés pour ça, recevoir la peine d'interdiction du territoire français, une peine complémentaire d'interdiction du territoire français.
Ça, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on donne des peines d'interdiction
aujourd'hui,
du territoire ou d'obligation de quitter le territoire.
Aujourd'hui, cette peine, elle existe quand vous avez du trafic de stupéfiants. Je veux que ça soit aussi le cas pour le trafic de tabac.
Mais c'est pas juste théorique?
Non, je crois pas. Vous savez qu'on a une loi qui va arriver sur l'immigration. On a par ailleurs une loi qui est en train d'être discuté au Parlement sur le ministère de l'Intérieur, qui permet de renforcer nos sanctions et d'être plus efficaces.
Un mot sur l'hôpital de Versailles, qui est visé par une cyberattaque. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, ils ont plusieurs malades qui ont dû être transportés dans d'autres hôpitaux, dont des nourrissons. Il n'y aura vraisemblablement pas d'urgence à Noël. Est-ce que vous avez un peu des nouvelles de cette manière dont les hôpitaux, dont les services publics sont aujourd'hui la cible de hackers, et notamment probablement comme une nouvelle forme de guerre.
Oui, on voit que c'est une menace qui pèse sur des institutions publiques. C'est le cas des hôpitaux. Ça a été le cas, je crois, d'un conseil départemental il n'y a pas si longtemps. C'est aussi le cas d'entreprises françaises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire. Souvent, c'est crapuleux, c'est-à-dire que c'est des demandes de rançon contre la restitution des données, mais vous avez raison.
Mais là, visiblement, à l'hôpital de Versailles, c'est même pas vraiment crapuleux.
Vous avez raison, il peut y avoir aussi des ingérences étrangères, il y a des enquêtes pour ça, pour le mesurer. On a considérablement renforcé, je le vois en tant que ministre du Budget, les moyens de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des systèmes de la sécurité des systèmes d'information, pour mieux équiper en cyberdéfense nos institutions publiques, qui sont des institutions vitales. Mon collègue ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, était sur place hier. Et évidemment, on va accompagner.
Avec le ministre de la Santé.
Avec le ministre de la Santé. Évidemment, on va accompagner très fortement l'hôpital de Versailles et continuer à agir pour renforcer la cybersécurité de toutes nos institutions publiques.
Et dans
on voit que les risques ont évolué. Et c'est vrai qu'on voit que quand on parle de guerre, par exemple, à distance, il y a la possibilité de neutraliser des institutions publiques qui sont cruciales pour la protection des Français. C'est pour ça qu'on doit continuer à renforcer notre protection.
Gabriel Attal, le ministre délégué des Comptes publics, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Et vous nous annoncez donc qu'il y aura bien un dispositif gros rouleur que vous appelez les gros bosseurs. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.